Merci beaucoup Bernard. Moi, je suis très très heureux aussi de parler à ton séminaire. C'est vrai que ça fait très longtemps qu'on se connaît. Et donc pour moi, c'est évidemment un grand plaisir, puis c'est un grand honneur de parler dans ton séminaire ici. Je voudrais vous parler d'un certain nombre de questions qui concernent les phrombies stables. Je vais essayer d'expliquer ce que c'est que les phrombies stables, vu depuis l'angle des questions mathématiques qui se posent et des résultats mathématiques qui se posent. Donc il y a toujours un peu un problème de traduction entre mathématiciens et physiciens. Donc si je dis des choses qui ne sont pas claires ou qui sont trop rapides, il faut vraiment m'interrompre. Faut vraiment poser des questions si je dis des choses qui ne sont pas claires, qui demandent des définitions, des explications plus prononcées. Je sais que Jean-Pierre n'a aucun mal, Eric non plus, je pense, aucun mal à m'interrompre. Donc allez-y. Alors, je vais vous parler de. Donc les slides sont en anglais, pardonnez-moi pour ça. Je vais vous parler de l'effet de la géométrie dans le cas des équations bistables. Je ne vais pas me limiter au cas des obstacles, vous allez voir, je vais commencer par autre chose. Mais d'abord, je vais vous dire un petit peu ce sont les résultats de base pour les équations bistables. Alors, donc l'équation qui nous occupe, c'est l'équation de réaction-diffusion la plus simple, enfin l'équation de réaction-diffusion classique, celle que Bernard a écrite tout à l'heure, du sur dt moins laplacien de u égale f de u. Donc en général, cette équation, elle est posée dans Rn. Une des choses fondamentales ici, c'est le rôle joué par les ondes progressives, ou les fronts progressifs pour être plus précis, qui sont des solutions particulières de ce type-là. C'est des solutions données par un front plan, on dit aussi, donc une fonction d'une seule variable réelle, grand U, qui va dans la direction E, donc qui dépend que de la coordonnée X dans la direction E, plus CT ou moins CT sur lesquels je crois que j'ai plutôt pris moins CT dans la suite, où E, c'est un vecteur unitaire, qui est la direction de propagation, et C, la vitesse de propagation, dont vous avez entendu parler dans le cours de Bernard Derrida. Donc le profil est quelque chose comme ça, en une dimension, voilà. Et donc, pour l'équation de réaction-diffusion, elle se ramène, pour chercher des fronts progressifs, on se ramène à résoudre une équation différentielle ordinaire, très simple, moins u seconde plus cu' égale f de u, dans R, sur R, donc ce qui fait que c'est un front, c'est que ça relie deux états stationnaires différents, 0 et 1, et si c va dans ce sens-là, donc ici négatif, et u est comme ça, on parlera d'une invasion de l'état 0 par l'état 1. Donc c'est ça qui est représenté par ces conditions aux limites. Donc, traditionnellement, on a regardé dans la littérature trois grands types de non-linéarité F. Il y a cette non-linéarité ici dont l'archétype c'est S fois 1 moins S, vous avez entendu parler. Donc, l'équation qui donne naissance à l'équation de Fischer-KPP. OK, dans une version plus générale, ça serait de simplement supposer que F est positif, je vais y revenir. Il y a ce qui est traditionnellement aussi appelé non-linéarité de combustion, avec température d'ignition qui dit que la réaction ne se déclenche qu'à partir d'un certain seuil θ. On pense à U à ce moment-là comme une température. Et puis, ce qui va nous occuper aujourd'hui, ce sont les équations bistables. Donc, les bistables, ça fait référence au fait qu'il y a trois zéros de F de S. Et si on regarde l'équation différentielle U point égale F de U, l'équation différentielle ordinaire, 0 et 1 sont stables alors que θ est instable. D'accord? Ça va jouer un rôle assez important. Donc, en particulier, je ne vais pas revenir sur les résultats qui concernent l'équation de KPP. Vous en avez entendu pas mal parler ici. Et je pense que Jean-Michel Roggeoff l'a aussi rappelé la semaine dernière. Donc, dans le cas bistable ou combustion, le résultat fondamental pour cette équation différentielle ordinaire, c'est qu'il existe une seule vitesse C et un seul profil U. Donc, profil, évidemment, c'est toujours unique à translation de l'origine près, bien sûr. Donc, le profil lui-même est unique. Il y a unicité de la vitesse C, contrairement à Fischer-KPP, où vous avez un demi-intervalle de vitesse, un demi-intervalle infini de vitesse possible. La différence principale entre le cas KPP, donc Fischer-KPP, ou positif en général, c'est le fait que, dans ce cas-là, qui est en flou ici. Dans ce cas-là, lorsqu'on a une donnée initiale U0 qui n'est pas identiquement nulle, mais qui peut être confinée sur une zone extrêmement petite, ça suffit pour assurer l'invasion de 0 par l'état 1. C'est-à-dire que partout, U de T de S va tendre vers 1. Donc c'est ce qui a été appelé de façon imagée par Aronson et Weinberger, ce qu'ils ont appelé le hair trigger effect. Donc c'est déclenché par un effet de cheveux. Il suffit d'un cheveu de choses non nulles, ici de populations non nulles, pour que tout l'espace soit envahi par l'état 1. En revanche, surtout je vais parler de l'état bistable, oublions celui-là, l'état bistable, en revanche, vous voyez bien qu'il y a une compétition entre deux solutions possibles. Vous voyez, ici, dans le cas Fischer-Capper, on appelle ça aussi monostable parce que 0 est instable alors que 1 est stable. Ici, vous avez deux états stables possibles et donc il y a une compétition entre 0 et 1. Et une bonne partie de l'étude consiste à savoir qui va l'emporter, comment et comment ça se produire dynamiquement. Alors, juste un mot, pourquoi on introduit des équations bistables? Il y a beaucoup de raisons. Je crois que vous avez vu des motivations qui viennent de la dynamique des populations en génétique. Mais donc il y a beaucoup de raisons de regarder des non-linéarités bistables plutôt qu'APP. Depuis le début, elles étaient présentes dans ces études-là. Mais en particulier, elles sont liées pour les populations. Il y a d'autres raisons. Il y a d'autres modèles où, par exemple, en changement de phase, etc., il y a des milieux où il y a deux états stables et puis on essaie de comprendre lequel va l'emporter. Mais en dynamique des populations, ça correspond à ce qu'on appelle l'effet Allé. Alors, l'effet Allé faible, c'est lorsque le terme non-linéarité n, je mets n ici au lieu de u pour dire que c'est une population, c'est lorsque f de n sur n est positif, mais n'atteint pas, contrairement à ce qui se passe dans KPP, son maximum en n égale 0. Vous voyez, ce qui définit KPP, c'est le fait que le maximum de f de n sur n arrive en 0. Ici, l'effet Allé faible nous dit que le maximum sera atteint à une certaine valeur n étoile. Puis il y a l'effet Allé fort qui est lorsque f de n est négatif pour n positif petit. Donc ça veut dire que le milieu est hostile pour des populations qui sont en dessous d'un certain seuil de densité. D'accord ? C'est ça qu'il faut comprendre. Alors pourquoi ça arrive ? Ça arrive souvent dans la nature, évidemment, même je dirais presque le plus souvent. Notamment un cas très classique, c'est le cas où il y a une dispersion des individus, une dispersion aléatoire, et lorsque il y a reproduction sexuelle. Pourquoi ? Parce que il faut que la population ait une certaine densité pour que les rencontres aléatoires soient suffisamment efficaces ou se produisent suffisamment souvent pour qu'il y ait un taux de reproduction qui contrebalance la mortalité. D'accord ? Donc ça, c'est le cas le plus classique, la reproduction sexuée, qui justifie l'effet Allé. Mais il y a d'autres choses. Par exemple, lorsque la population tombe en dessous d'un certain seuil, c'est le problème qui se pose parfois dans des oasis pour des arbres, lorsqu'elle est en dessous d'un certain seuil, il n'y a pas suffisamment de mélange génétique qui est lié parce que tous les arbres viennent de la même souche. Et donc, ça peut être aussi finir par être un milieu adverse pour cette population. Puis il y a d'autres exemples. Par exemple, pour lutter contre le froid, certains insectes se réunissent dans une forme de nid. Et ça aussi, c'est la même chose. Donc là, par exemple, la processionnaire du pin fait ça. Donc c'est ce qui lui permet de survivre à des températures plus basses que celles qui lui sont propres. Alors voilà l'effet Allé faible qui est ici et l'effet Allé fort. Donc l'effet Allé faible, c'est en particulier ce qui va donner lieu à des fronts poussés plutôt que tirés, dans la terminologie que Bernard a utilisée. Et l'effet Allé fort aussi, je dirais encore plus fort. Vous voyez ici, c'est partout favorable, mais le f de n sur n est maximum lorsque la population est ici. Alors qu'ici, elle est carrément négative, elle vient. D'accord. Alors, quels sont les résultats? Donc, je vais parler de ce cas-là. Je vais me placer dans ce cadre-là, l'effet bistable, qui est quelque chose qui joue un rôle important dans beaucoup de modélisations, y compris en sciences sociales. Alors, quels sont les résultats principaux? Le résultat principal pour l'équation bistable, comme je vous l'ai dit, c'est donc qu'il existe un unique front progressif, mais si maintenant on considère le problème de valeur initiale, comme tout à l'heure, on se donne une donnée initiale U0 de X qui est, mettons, un support compact. Alors, le premier résultat nous dit que si U0 ne dépasse pas beaucoup θ, θ c'est le zéro intermédiaire, par exemple, si la mesure de l'ensemble où U0 dépasse θ est faible et petite, alors il y aura extinction. Extinction signifiera ici que c'est l'état 0 qui l'emporte. Limite de U de Tx va tendre vers 0, va être 0 lorsque T tendra vers l'infini. Et au contraire, si je suppose, comme c'est le cas sur cette figure, que l'intégrale de f de 0 à 1 est positive, donc il y a plus de masse de ce côté-là que de ce côté-là, alors, si pour un certain delta positif, l'ensemble de... Non, j'ai mal écrit ici, c'est l'ensemble, c'est pas la mesure. L'ensemble des x où U0 de x est supérieur ou égal à θ plus delta contient une boule de rayon assez grand, contient la boule BR de rayon assez grand, alors il y aura propagation. Propagation, ça signifie limite de U de Tx est égal à 1 en tout point x lorsque t tend à l'infini. Vous voyez, ce qui est intéressant ici dans ce que je vous disais, il y a un peu de la lutte entre le 2, 0, entre le 0 et 1. Ici, 1 est plus stable que 0 en ce sens de la masse. Et effectivement, si la donnée initiale est surtout par ici, par exemple, si elle est en dessous de θ, c'est évident de voir que ça va, que tout va tendre exponentiellement vers 0. Mais même si ça ne dépasse pas θ sur l'ensemble assez grand, ça suffira à conduire à l'extinction. En revanche, si vous avez une région, même si c'est une région confinée, c'est-à-dire qui est compacte, si vous avez une région assez grande où U0 dépasse un nombre plus grand que θ, alors c'est l'état 1 qui va l'emporter, même si à l'infini, en dehors de la donnée initiale, est 0 en dehors d'une boule de rayon très grand. Donc ça, c'est la première chose qu'il faut savoir. Et en particulier, vous avez la même chose que dans Fischer-KPP, à savoir que là, vous savez aussi où se trouvent les fronts. C'est plus simple dans ce cas-là, dans le cas bistable. En effet, donc, alors comment on définit ici le front? On peut dire que c'est, si on regarde, si on se déplace, si on prend une sphère qui en expansion avec une vitesse d'expansion C, expansion radiale avec une vitesse d'expansion C, vous regardez à l'intérieur de cette sphère, vous avez uniforme convergence vers 1 de la solution. Pour toute vitesse C plus petite que C étoile, et pour tout C plus grand que C étoile, si vous regardez à l'extérieur d'une telle sphère, vous avez convergence uniforme vers 0. Donc c'est ça qui nous permet, c'est ça qu'on appelle la vitesse asymptotique de propagation est C étoile, j'y reviendrai. Et ici, le C étoile, il n'est pas explicite, mais il est égal à l'unique vitesse des fronts progressifs. Il y a un C étoile qui vous donne l'unique vitesse des fronts progressifs, il n'est pas donné explicitement, vous pouvez avoir des estimations, etc. C'est pas 2 racines de f' de 0 ou que sais-je, c'est ici les données, il est simplement, vous savez qu'il existe et on peut trouver des propriétés qualitatives. Et de surcroît, donc, si vous avez, ce que ça veut dire ça, c'est que si vous avez une donnée initiale U0, ici je l'ai vu de très très loin, donc il faut imaginer que ça c'est un ensemble assez grand, c'est vu de très très loin, donc U0 contient une boule de rayon assez grand pour que ça soit... le support de U0, là où U0 est plus grand que θ, à l'instant T, ben, typiquement, le front va se situer, le front c'est une ligne de niveau de U, va se situer autour d'une boule de rayon C étoile T dans la direction. Il n'y a pas de shift de Bramson dans ce cas-là, donc, contrairement à ce que vous avez vu. Donc c'est un cas un peu différent, ça tend vraiment vers ça. Alors, ensuite on peut raffiner les choses, je ne vais pas rentrer dans les détails de ce qui se passe. Alors ça, c'est donc la position du front. Il y a une chose que j'aime bien, c'est ça, mais vous l'avez peut-être déjà vu, pour ceux qui sont un exemple. C'est pas moi qui ai mis le son. Hein. Mais voilà, ça c'est une bactérie qui croît en quelques heures et qui donne lieu à un front. Vous avez vu, ça devient à peu près circulaire. Alors, je vais essayer de vous passer à la partie 2. Donc, je vais vous donner deux parties. La première partie, je vais essayer de vous décrire un travail plus ancien, mais je pense qu'il éclaire bien les choses. Donc, c'est un travail qui concerne les domaines. Donc, ça a aussi un effet de géométrie. Et je vais vous parler ici d'un travail que j'ai fait quelques années avec Juliette Bourse et Guillemette Chapuyat pour illustrer l'effet de la géométrie. Donc, c'est la propagation dans un domaine de type cylindrique. Et je vais vous expliquer un peu les choses. Donc, on va essayer de voir si le domaine dans lequel il y a propagation joue ou non un rôle. C'est ça l'objectif. Et donc, comme je vous l'ai dit, on se place dans le cas bistable. Donc, une fois pour toutes, c'est 0, θ, 1. C'est ça le cas bistable. Il y avait peut-être son rappel là. Et je vous rappelle aussi que dans le cas bistable, il existe une unique vitesse C de front, un unique profil phi, solution de l'équation homogène, donc dans tout l'espace, K qui est en dimension 1, donc, ou bien sinon tout l'espace, ça sera dans toutes les directions 1. Et je vous rappelle aussi que c est positif si l'intégrale de 0,1 de f de sds est positive. OK ? C représente également la vitesse asymptotique de propagation. Alors, dans le cas homogène, donc ça avait été un vieux résultat de Fife et MacLeod, sur l'existence d'unicité de C. Donc, ce dont je vais vous parler, c'est de cas non homogènes. Pourquoi j'appelle ça non homogène ? Il y a deux façons de penser, plus de façons de penser à ce que sont les problèmes non homogènes. Pourquoi j'appelle ça homogène ? C'est parce que l'équation est isotrope, elle ne dépend pas, elle est la même en tout point de l'espace. Il y a invariance complète de l'équation par rapport à la position du point. Et donc, les cas non homogènes, c'est le cas, par exemple, de cette équation où vous avez des coefficients de diffusion qui peuvent dépendre de t et de x. Il peut y avoir un terme de dérive, un terme de drift, q de tx gradient u. Et le terme de réaction lui-même peut avoir des zones favorables, des zones moins favorables, etc. Et donc, ça, c'est le cas non homogène. Et donc, ça, c'est une équation qui est non homogène, qui peut être posée dans tout l'espace, mais qui n'est pas le même. Et il y a le cas de la. Un autre cas, c'est celui où on a l'équation habituelle, que vous avez vue plusieurs fois déjà et aujourd'hui aussi, ut moins laplacien de u égale f de u dans oméga. Mais simplement, vous n'êtes plus dans tout l'espace. Vous regardez ça, la propagation, dans un domaine oméga, et vous imposez, donc ça va être tout le temps le cas ici dans ce que je vais vous raconter, vous imposez une condition de non-pénétration, une condition de Neumann, du sur des nu égale 0 sur le bord de oméga. OK ? Et donc, ça, c'est un cas de géométrie non homogène, la non-homogénéité liée à la géométrie. Vous avez vu la semaine dernière, pour ceux qui ont assisté à l'exposé de Jean-Michel Rogjoff, un autre exemple de non-homogénéité, où c'était la présence d'une route, donc une route à l'intérieur d'un ensemble homogène. Quel était l'effet de la route ? C'est un autre exemple de non-homogénéité. Donc, si c'en est encore d'autres. Et donc, ce qui m'intéresse en particulier, c'est de comprendre s'il y a un rôle de la géométrie dans la propagation quand on va dans cette direction-là ou dans cette direction-là. C'est ça que je vais essayer de... Et il y a beaucoup de raisons de modélisation qui conduisent à poser ce genre de questions, bon, notamment dynamique des populations. Quel est l'effet sur une population, par exemple, lorsqu'il y a un passage d'un isthme, donc une région très étroite. Il y a des modèles de changement climatique qui font intervenir des questions analogues à celles-ci. Il y a modélisation des zones de dépolarisation dans le cerveau. Il y a des études sur les ondes dans certaines cellules du cœur. Je ne vais pas parler de la modélisation, mais ça intervient dans beaucoup de domaines. Et la raison habituelle de la présence de ces équations, c'est qu'on a deux états stables et puis on essaie de voir si un peut remplacer l'autre. Alors, avant de parler de modèles plus généraux, je voudrais juste vous dire une minute, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on a un cylindre droit ? Un cylindre droit, donc oméga, c'est R croix un sous-ensemble de R2 ou de R3, comme ici, R2. Et dans ce cas-là, cette équation, ben, en fait, il n'y a rien à dire parce qu'elle se comporte exactement comme celle dans l'espace, dans tout l'espace, à savoir qu'il y a un front d'onde. En effet, bon, dans la seule direction x1, ici, si x1, c'est l'axe du cylindre, il y a un front de la forme phi de x1 moins ct, où phi, c'est l'ancien phi, donc je vous ai montré tout à l'heure. Et il y a donc une unique vitesse c, et aussi la vitesse asymptotique de propagation, asymptotic speed of propagation, est la même que dans Rn, et c'est ce qu'on a appelé c étoile, qui est aussi l'unique vitesse des fronts progressifs. Alors, donc la première des questions qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qui généralise la notion de front progressif dans ce contexte non homogène ? Alors, il se trouve qu'on a introduit ça avec François Hamel, et en fait, on a aussi utilisé un travail qu'on avait fait avec François et Hiroshi Matano sur le fait, donc comment on construit des ondes comme ça. Alors, je ne vais pas vous faire la théorie de ça, mais il y a une théorie assez développée maintenant qui dit que donc voilà ce qui va remplacer Alors, je l'ai effacé. Donc, qu'est-ce que c'est qui généralise un front progressif ici ? C'est une solution u de t et de x. Quand on a un domaine qui n'est plus un cylindre, on n'aura plus de solution de la forme traveling wave habituelle, ça n'existera plus à cause de la géométrie, mais on peut construire une solution qui sera une solution u de tx de l'équation qui sera éternelle, comme on dit, c'est-à-dire qui est définie pour tout t de moins l'infini à plus l'infini. Et ça, c'est pas loin déjà de dire ce que c'est qu'un front progressif. Le fait d'avoir une solution éternelle, c'est une propriété extrêmement forte pour l'équation l'équation non linéaire de la chaleur comme ça. Mais en fait, on peut dire aussi que c'est un front quand, par exemple, il y a une distance à un certain point qui se déplace à la vitesse CT et les ensembles de niveaux restent à une distance. Si on regarde l'ensemble de niveaux lambda, eh bien, il reste à une certaine constante fois lambda d'un point qui se déplace à la vitesse C. Donc il y a une façon de généraliser, c'est ce qu'on a fait avec François Hamel, une façon de considérer les fronts progressifs pour des équations complètement non homogènes, donc en particulier dans ce cas-là. Et on arrive à construire, donc ici, on arrive à construire une solution éternelle U de X et de T, comprise entre 0 et 1, qui croît avec le temps T, qui part en gros de moins l'infini, quelque chose qui, lorsqu'on est loin des obstacles, parce que je vais vous parler d'obstacles, ressemble à un front au front plan, puis à des distances finies, atteint des obstacles, on se demande ce qui va lui arriver. Je vais vous illustrer tout ça. Vous le verrez là et dans le slide dans les autres parties aussi. Donc, ce qui est important, c'est que cette solution qu'on construit, qui est unique, donc c'est vraiment comme le traveling wave. C'est exactement comme le traveling wave. Cette solution qu'on construit, qui est unique, elle est croissante en temps, donc elle a une certaine limite U infini de X. Donc, il faut penser à quelque chose, vous voyez, mettons les obstacles sont là-bas, moi j'arrive de moins l'infini. Ici, je suis comme le front plan, j'arrive là, et puis on passe ou on ne passe pas l'obstacle. Et en tout cas, lorsque le temps tend vers l'infini, on converge vers une fonction distribution U bar de X. Typiquement, si U bar vaut 1, j'aurais dit qu'il y a invasion complète. Si U bar n'est pas égal à 1, il peut y avoir invasion partielle. Et surtout, si U bar tend vers 0 lorsqu'on est loin de l'obstacle, dans l'autre direction, je dirais qu'il y a blocage. Okay, c'est des notions assez naturelles, je vais les... Donc l'invasion complète, c'est lorsque U infini égale 1. Et donc la question ici, c'est de trouver les propriétés de cette fonction U infini de X qui caractérise la propagation, le blocage ou l'invasion complète. D'accord ? Blocage, je répète, c'est quand on s'éloigne de l'obstacle, on tend vers 0, enfin on s'éloigne, on va dans la direction... Ici, il n'y a pas d'obstacle, mais c'est un cylindre. Donc si on tend vers U bar de X et U bar de X est petit dans la direction du cylindre, je dirais qu'il y a blocage. Si au contraire U bar retrouve l'état 1 lorsqu'on est loin du cylindre dans le cylindre, je dirais qu'il y a invasion. Et invasion complète lorsque U infini est égal à 1. Alors, donc il y a un premier résultat qui nous dit lorsqu'on va dans la direction d'un cylindre qui se rétrécit, il y a toujours invasion. Il y a toujours invasion. Et donc ici... Donc, cylindre qui se rétrécit, ça veut dire ici que la normale extérieure au cylindre a toujours une coordonnée dans la direction x1 qui est positive ou nulle. C'est ça que ça veut dire. Et j'ai oublié de dire, mais je suppose toujours aussi que la partie à gauche, l'arrivée, est un cylindre droit. Il y a des raisons techniques qui m'empêchent de considérer pour le moment des cas plus généraux pour construire ces angles. Mais bon, ça, c'est purement technique, c'est pas très intéressant en fait. Alors, donc dans ce cas-là, il y a toujours propagation. Il y a propagation à la vitesse C. Il y a propagation à la vitesse C, qui est la même vitesse que tout à l'heure. Donc, vous voyez, dans la direction du cylindre, lorsqu'on se déplace à une vitesse plus grande que C, on va tendre vers 0, et plus petite que C, on verra 1. Donc, c'est la même chose que ce qu'on a vu à présent. Alors, voici la propagation d'un cylindre droit. Je ne sais pas si les animations vont marcher. J'avais quelques... Petit problème technique ce matin. Voilà, donc ça, c'est... Vous voyez, donc ça passe dans une direction où ça se rétrécit. Il n'y a pas de difficulté, ça passe sans trop de problème. Alors, en revanche, un des résultats principaux, donc quand ça va en se rétrécissant, on peut être bloqué. Il y a invasion. En revanche, lorsqu'on va dans la direction où ça s'ouvre, c'est au contraire, il peut y avoir blocage. En fait, c'est le cas ici. Donc la façon dont ce résultat est un peu particulière, mais voilà le résultat qu'on démontre vraiment. C'est, vous voyez, il faut imaginer qu'on fixe cette partie-là à partir de 0, toute cette partie-là est fixée, puis il faut imaginer qu'il y a un morceau de ce cylindre, non, qui n'est pas droit, il y a un morceau de ce cylindre ici qui peut dépendre de epsilon. Et le résultat dit... que si, entre une fois fixé A et B, donc ici moins 1 et 0, si vous voulez, si la partie du cylindre qui est entre moins 1 et 0 a une mesure qui est inférieure à epsilon, il existe un epsilon petit, c'est-à-dire que si la mesure de ce cylindre est inférieure à epsilon, alors il y a blocage. D'accord ? Donc, Et donc, quel blocage, je répète, ça veut dire que U de TX va tendre vers U infini, qui est partout positif, hein, c'est le principe du maximum, mais ce U infini va être très petit lorsque X1 devient positif, et lorsque X1 dans l'infini, ça va tendre vers 0. Et donc, ce qui est important, c'est ça qu'on fait varier. Il faut comprendre ça. Donc, j'ai un ensemble, je rentre dans un certain espace et je m'autorise à rendre de plus en plus étroit le couloir d'arrivée. Et si le couloir d'arrivée est trop étroit, il y a blocage. Alors, voilà comment ça se produit. Vous voyez, je pense que très souvent, la première réaction, c'est de penser, si on demande entre le cylindre qui se rétrécit ou qui s'ouvre, la première réaction, c'est de penser que ça va passer dans le cylindre qui s'ouvre et être bloqué dans le cylindre qui se rétrécit. Et c'est exactement le contraire. Et on va essayer de comprendre pourquoi. Donc voilà le cylindre. Vous voyez, donc il y a propagation avec la vitesse c, c'est l'onde classique. Ça arrive ici, et qu'est-ce qui se passe ici? Ça ne va pas plus loin. Ça n'arrive pas. Voilà. Est-ce que vous savez pourquoi ça se produit comme ça? Est-ce que quelqu'un a une explication à proposer? Donc, ce qui se passe ici, c'est la population, pensez à ça, une population qui arrive ici et qui, une fois arrivée ici, tout d'un coup, diffuse très vite. Et donc, la population qui se retrouve ici n'arrive jamais à dépasser le seuil θ, en quelque sorte. Et donc, le milieu est adverse. Donc, vous pouvez avoir des populations, vous avez ces individus qui sont confinés dans des espaces extrêmement étroits ici, qui arrivent dans ce... Et tout d'un coup, ils arrivent dans ce grand espace, ils sont ivres de liberté, ils vont dans toutes les directions, et ils oublient de se reproduire. Et donc voilà ce qui explique le phénomène. C'est intéressant. Donc, quand ça s'ouvre, ça peut être bloqué. Quand ça se rétrécit, ça peut être... Alors, il y a... Bon, je ne veux pas vous montrer la définition, mais il y a différents exemples de comment ça peut être bloqué, de zones où c'est bloqué. Je voudrais juste dire, parce que je vais aller un peu vite, je voudrais juste dire que lorsque le domaine croît, s'ouvre, mais s'ouvre progressivement, donc tout ça on peut donner des énoncés mathématiques de ses propriétés, lorsque ça s'ouvre progressivement comme ça, alors il y a invasion. Donc vous voyez, c'est un delta 0 tel que ça tend vers, ça se rapproche d'un cylindre droit, eh bien il y aura invasion. Alors voilà un exemple de propagation d'un cylindre. Vous voyez, ça se ralentit un petit peu à l'ouverture, mais ça finit par... c'est confiné suffisamment au départ pour que les populations croissent dans cette partie progressivement confinée. Je voudrais juste dire que, par exemple, démontrer ça, c'est un problème ouvert mathématiquement. Par exemple, dans ce que je pense, que je vais préciser les choses. Nous, ce qu'on a démontré, c'est les cas précédents. Ou bien ce qu'on a démontré, effectivement, c'est que si... Pour être précis, on a démontré que si l'ouverture était brutale, alors il y avait blocage. Et on a démontré que si ça, c'est suffisamment progressif, alors il y a propagation. Ce qu'on imagine ici, c'est qu'il y a un angle limite, en-delà duquel il y a propagation, enfin, au-delà duquel il y a blocage, et en-dessous duquel il y a propagation, qui a un angle limite exact. Et comment est déterminé cet angle limite, on ne sait pas. Donc le démontrer mathématiquement, on ne le sait pas. C'est un problème ouvert. Mais c'est très, évidemment, très... très... On pense, on est très, très persuadé que c'est... Alors, quelles sont les propriétés qui permettent de garantir l'invasion? Alors, donc on a vu tout à l'heure, donc qui se rétrécit, il y a toujours l'invasion, mais plus généralement. Alors, une des conditions, c'est ça, c'est si vous avez un cylindre, si vous avez un cylindre tel qui contient un cylindre droit de rayon assez grand, donc il existe un R0 qu'on peut... plus ou moins pas calculé, mais enfin qu'on peut caractériser, tel que si vous avez le cylindre droit de R croit la boule de rayon R0, donc ici R croit l'intervalle d'amplitude 2 R0 et contenu tout entier dans oméga, avec ce R0 assez grand, ça c'est R0 ici, alors il y a invasion, c'est-à-dire il existe, donc il y a invasion, donc précisément ça veut dire s'il existe un R étoile, tel que pour tout R0 supérieur ou égal à R étoile, U se propage, c'est-à-dire U va tendre vers U infini. Et ce qu'on peut dire, c'est que le minimum de l'infini de x et 0 va être positif. Alors, l'étape suivante, c'est de comprendre quelles sont les conditions sur oméga pour qu'il y ait invasion complète. Quand peut-on dire que l'infini, la limite, est identiquement à 1? c'est ce qu'on peut dire. Donc il y a des conditions géométriques là-dessus. Et c'est d'une. Ici, donc, c'est lié à. C'est une sorte d'extension, on pourrait dire, d'un résultat classique de Castaigne-Hollande et Mattano qui dit que si on prend un problème de Neumann avec un F de U général, C1, si on regarde une solution stable dans un ensemble convexe du problème de Neumann, solution stable du problème de Neumann, alors elle est forcément constante. C'est un résultat très remarquable qui a des contre-exemples lorsqu'on je vous en indiquerai tout à l'heure. Il y a des travaux très récents dans cette direction par Samuel Nordman qui a réussi à généraliser ces choses-là et à renouveler vraiment le thème de ce thème-là. C'est lié à ça. Alors, voilà, donc, ici, vous avez un cylindre assez grand. Donc, qu'est-ce qui se passe? Regardons, donc ça arrive ici. Vous voyez, ici, on a la même situation que tout à l'heure. Mais vous voyez, bon, effectivement, c'est à peine ralenti. Mais il y a suffisamment de population qui sort du tuyau, en quelque sorte, pour qu'elle constitue une source secondaire d'expansion à partir de la sortie du tuyau. Et vous voyez, ça, c'est comme tout à l'heure, c'est comme une. Vous voyez, ça, on retrouve la propagation qui est pratiquement comme un disque ici. Les ensembles de niveaux sont comme des disques qui se propagent, puis ensuite, ça reprend sa forme et ça va reprendre la forme, la vitesse C. Donc, vous voyez, c'est cet ensemble-là. Donc, ça nous dit plusieurs choses. Le point important ici, c'est qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas la taille relative de ça par rapport à ça. Par exemple, je pourrais mettre ici tout l'espace à partir de là, pas de frontière de ce côté-là, et il y aurait la même chose, il y aurait propagation. Donc, c'est pas le rapport, par exemple, de la sphère extérieure sur la sphère intérieure qui compte. C'est pas le rapport. C'est vraiment la grandeur absolue de la région qui arrive ici par rapport à F. Par rapport à F. D'accord ? Donc, tout à l'heure, le tuyau, lorsqu'il n'y a pas de pénétration par le petit tuyau, c'est aussi indépendant, en gros. Il faut pas, c'est indépendant, sauf qu'il ne faut pas que la partie supérieure se restrécisse trop, parce que sinon, on va se retrouver avec un cylindre droit, et là, il y a pénétration. D'accord ? Et donc, quelles sont les conditions pour dire que c'est identiquement... Alors, il y a deux types. C'est identiquement égal à 1. Donc, invasion, ce qu'on appelait invasion complète, donc ça converge partout vers 1. Donc, voici des conditions. Une des conditions, c'est de supposer que donc le cylindre est croissant. Donc, ce cylindre ici est croissant, le contraire de ce qu'on avait vu tout à l'heure. Le cylindre est croissant. Mais, donc, il contient une boule de rayon assez grand, disons, qui est ici. Et ce qu'on dit ici, c'est que si vous regardez la partie qui est au-delà de x1 supérieur à L, c'est une partie convexe et non bornée. À ce moment-là, ça suffit pour dire. Et donc, c'est le signe des croissances qui se traduit par cette propriété. Tout à l'heure, on avait nu1 positif ou nul. Donc, nu1, c'est la première composante de la normale extérieure. Donc, ici, au contraire, ça s'ouvre. Et vous voyez, la normale ici, elle est dirigée vers x1 négatif, en tout point. Donc, voici des exemples d'ensemble comme ça. On contient, je répète, on a toujours que ça contient un cylindre assez gros pour avoir invasion, mais ça se donne l'invasion. Mais ce qui donne l'invasion complète, c'est le fait de dire que le cylindre est croissant et à partir d'un certain point x1 égale L, à droite de x1 égale L, on a un ensemble convexe. Et donc ces deux ensembles figurent ça. C'est des questions. Il y a une troisième, alors je ne vais pas vous donner la démonstration. Troisième type de composant de propriété géométrique, c'est lorsque l'ensemble est étoilé par rapport à un axe. Qu'est-ce que ça veut dire étoilé par rapport à un axe? Ça veut dire que toute tranche à x1 donné de ce cylindre est un ensemble étoilé par rapport au point qui est l'intersection avec l'axe. D'accord? Et donc ça suffit aussi de nouveau, et ça repose sur une méthode qu'on a introduite, qui s'appelle sliding cylinder, une méthode mathématique, donc qui repose sur la méthode de déplacement de cylindre. Voici des ensembles qui sont star-shaped, sont étoilés par rapport à l'axe, donc ne sont pas étoilés, ils peuvent ne pas être étoilés par rapport à un point donné, si peut-être ils le sont, je ne crois pas, si on remonte ça beaucoup, ils ne le seront pas. Et en revanche, si on prend la trace ici, vous voyez, chaque trace étoilée en dimension 1, ça veut dire que c'est un intervalle. Donc, en dimension 2, c'est dire que chaque trace ici est un segment. L'intersection avec x1 égale constant est un segment. Mais ça suffit pour dire que l'invasion est complète. Et vous voyez, des ensembles qui ne satisfont pas ça, c'est cela. Par exemple, ça ne satisfait aucune de ces hypothèses que je viens de dire, celui-là non plus. Eh bien, effectivement, dans ce cas-là, il n'y a pas invasion complète. Pourquoi ? Parce que essentiellement, ça ne va pas rentrer là-dedans et donc la solution va être partout strictement inférieure à 1. Donc il n'y a pas invasion complète dès qu'on a des ensembles comme ça. Donc vous voyez, on n'est pas très loin des conditions géométriques presque optimales pour ce résultat d'invasion complète. Alors, donc je vais maintenant vous parler d'obstacles. Alors, OK. Donc ça, c'est un travail en commun avec Hiroshi Matano de Tokyo et François Hamel d'Aix-Marseille. Et donc, on s'intéresse à ce qui se passe quand on a une onde qui rencontre un mur d'obstacles. Alors, il y a toujours deux façons de voir les choses. C'est des bouteilles à moitié vide, à moitié pleine. Vous pouvez voir l'espace libre avec des obstacles. Vous pouvez voir un mur avec des trous. Mais c'est la même chose, en fait. En tout cas, en dimension 2, c'est la même chose. Et c'est pas la même chose. Donc on va parler d'un mur perforé, d'obstacles. Et voici la formulation du problème. Donc c'est toujours notre équation bistable, avec non-linéarité bistable, comme on a vu plusieurs fois déjà. Et on fait toujours cette hypothèse que 1 est plus stable que 0. Et ça se traduit, donc on dit que c'est unbalanced non-linearity. Donc ça se traduit par le fait que l'intégrale de 0 à 1 de f de sds est positive. Et je vais supposer, donc la primitive de moins f, elle fait quelque chose comme ça. Donc il y a deux minima, c'est double well, mais avec deux profondeurs qui ne sont pas les mêmes. Un est plus stable, encore une fois, que zéro, c'est ce qui est dit ici. Et je vous rappelle, donc il existe une unique front d'onde, enfin front progressif, avec une unique vitesse c. On avait déjà utilisé ce résultat plusieurs fois, donc dans le cas de R, c'est juste cette équation-là, et ce sont des fronts poussés, bien entendu. Et lorsque n égale à 1, on a, par exemple, des fronts dans la direction x1 qui sont phi de x1 plus ct. Alors, ce qui nous intéresse maintenant, c'est, donc ça, c'est voilà, une représentation des fronts plans. Voilà d'ailleurs pourquoi ça s'appelle des fronts plans. Donc, ce qui nous intéresse maintenant, c'est de regarder ce qui se passe quand on met un mur d'obstacles. Alors, pour nous, les obstacles, le mur, ça sera un ensemble K qui va avoir une épaisseur finie dans la direction x1. Donc, ils sont tous compris entre x1 égale moins m et x1 égale 0. Et donc une épaisseur finie. Et je vais aussi supposer que ces obstacles forment un réseau périodique dans Rn-1. Donc, vous voyez, j'ai quelque chose de profondeur moins m, entre moins m et 0 dans la direction x1. Je suppose qu'il y a, disons, pour simplifier, dans la direction x2, xn, etc., c'est périodique par rapport aux variables x2, xn. Voilà. Si on sait un peu plus généralement, vous n'avez pas besoin de prendre les vecteurs de la base habituelle pour dire que c'est périodique. Donc, il y a des vecteurs de périodicité pi. Donc ça va être un point important, la périodicité par rapport à y. Donc voici exactement ce qu'on essaie de comprendre. On a une onde qui arrive de moins l'infini, donc c'est ce que vous disiez ça tout à l'heure, on sait construire une onde généralisée, comme on dit, qui arrive ici, on se demande si elle va pouvoir passer ce réseau d'obstacles ou non. Et vous pouvez voir ça encore une fois comme un mur perforé, en dimension 3 par exemple, ça peut être quelque chose qui va traverser, vous vous intéressez à savoir si on peut traverser un réseau comme ça, est-ce que ça bloque, est-ce que ça passe, est-ce qu'il y a invasion complète, etc. Et les mêmes questions se posent. Donc vous avez toujours cette onde progressive qui vient de moins l'infini, qui ressemble à ça. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une unique onde généralisée, c'est-à-dire une solution éternelle de l'équation, qui ressemble à phi de x1 plus ct lorsque vous êtes en plus l'infini. Donc ça, c'est cette onde qui est là. Et donc je répète, quand on va très loin dans cette direction-là, on a quelque chose qui ressemble à ça. Et en fait, il y a unicité de la solution éternelle qui a comme valeur initiale en t égale moins l'infini, si on veut dire, pour parler de façon imagée, cette fonction phi qui résout cette équation des ondes, équation des fronts. Donc on s'intéresse, donc sous quelles conditions le front va passer l'obstacle, le mur d'obstacle ou pas. Alors, de nouveau, donc il existe un unique, ça c'est le même théorème, mais c'est en fait un théorème qui date de notre travail avec Matano et Hamel. Précédent, on avait étudié le cas d'un seul obstacle, borné, on regardait ce qui se passait avec un seul obstacle, et on a donc une solution entière, entière, c'est-à-dire définie pour tout temps, de cette équation, qui en moins l'infini, lorsque t vaut moins l'infini, ressemble complètement au fond plan dans la direction x1, et qui est croissante en temps. Et donc ça, il en existe une seule. Je répète, donc c'est vraiment comme si on résolvait le problème de la valeur initiale en moins l'infini. On se dit, on démarre avec le front plan très à droite, en plus l'infini, en x égale plus l'infini, et en t égale moins l'infini, on a ce chose-là. Et donc il existe. Et ce qui nous intéresse, c'est de déterminer le profil limite, puisque u est croissant en temps, il y a un profil limite. Et de nouveau, c'est ça, c'est l'analyse de V qui va nous dire si V s'il y a invasion ou pas. V est solution de l'équation stationnaire limite, où on a oublié le temps, donc elle est là. Cette équation non linéaire, laplacien de V plus f de V, égale 0 dans le complémentaire de l'obstacle, et à la frontière de l'obstacle, sur la frontière des obstacles, on a la condition de Neumann. Okay, et donc on cherche à savoir ce qu'on peut dire de V. Donc en particulier, je définis le fait qu'il y a propagation si V bar retrouve, lorsqu'une fois passé l'obstacle, V bar va tendre vers 1, j'appellerai ça propagation. Il y aura invasion complète si on peut dire que V bar est identiquement égal à 1, mais ce qui nous intéresse pour le moment, c'est de séparer ces deux cas. Il y aura blocage si V bar tend vers 0. Lorsqu'on s'éloigne de l'obstacle, V bar tend vers 0, c'est-à-dire que le front n'est pas réussi vraiment à franchir ce mur d'obstacle. Et l'obstacle peut se... On va le voir tout de suite. Alors, donc je donne deux comportements. Je vous ai parlé de deux comportements. A priori, il pourrait y en avoir beaucoup d'autres. Le premier résultat, et un des résultats les plus importants, c'est le résultat qui dit qu'en fait, ce sont les deux seuls comportements possibles. Donc, soit on aura V bar qui vaudra 0, soit V bar tendra vers 1. Soit V bar tendra vers 0, soit V bar tendra vers 1. Et ça, c'est lié à... C'est lié à une propriété dont je vais vous parler. Je voudrais vous dire un mot, donc des maths qu'il y a derrière. Un problème de type DeGeorgi, je vous expliquerai ce que ça veut dire tout à l'heure. Et donc ce qu'on peut dire, c'est que dans ce contexte-là, on aura toujours soit V tend vers 1, soit V tend vers 0. Et on peut même dire, on peut préciser les choses, on peut dire que la convergence est à la fois uniforme par rapport à Y. Donc c'est uniforme dans la direction par rapport aux variables dans la direction transversale, mais c'est aussi uniforme par rapport à l'obstacle. Donc si j'ai une suite d'obstacles, pourvu que ça reste dans la région entre moins m et 0, je vais préciser ce que ça veut dire. Donc ce que ça veut dire exactement, ça veut dire qu'il n'y a pas de suite de profils qui convergent vers 0 trop lentement, comme ça. Ça n'existe pas. Donc, autrement dit, ce que vous avez quand vous approchez d'une chose comme ça, ça va en fait remonter plus loin et ça va tendre vers 1. Ça sera le cas d'invasion. Quand vous vous rapprocherez de celui-là, ça ira de plus en plus loin, mais ce sera toujours une suite d'invasion qui va tendre vers un blocage. D'accord ? Donc, une des deux conditions qui est fermée et pas l'autre. Bon. Donc, c'est ça le. Donc, la convergence, je le disais tout à l'heure, est uniforme. Et donc, il y a en particulier. Vous n'aurez pas de convergence, une suite de profils comme ça qui s'éloignent, vous n'aurez pas ça. D'accord ? Donc, autrement dit, c'est ceux qui vont approcher ce profil-là vont en fait tendre vers 1 de plus en plus loin, mais tendront vers 1. OK. D'accord ? Donc ça repose sur le théorème de DeGeorgi, et je voudrais vous expliquer un mot de ça, peut-être... Je vais vous en parler tout à l'heure. Laissez-moi juste finir là-dessus, puis je voudrais parler du théorème de DeGeorgi. Donc ça repose sur le théorème de DeGeorgi, ce théorème de dichotomie, qui nous dit que la solution est soit identiquement, soit tend vers 1, soit tend vers 0. Ça repose sur une classification des solutions stables de certaines équations elliptiques dans tout l'espace. Et qu'est-ce que ça veut dire ici? Essentiellement, ça veut dire la chose suivante, ça veut dire que si je regarde la limite W infini, donc c'est la limite dans la direction X1, si vous voulez, eh bien, les solutions de ça vont tendre, donc ça va être des solutions dans tout l'espace. Vous voyez, si je prends la suite, une suite qui va, où je regarde X1 allant vers l'infini, alors à la limite, j'ai un certain profil W infini, donc encore une fois très loin, et cette solution, elle vérifie Laplace 1 W infini plus f de W infini égale 0 dans Rn. Et si jamais j'avais des points intermédiaires comme ici, j'aurais des points ici où W infini serait entre delta et 1 moins delta, disons, si j'avais des points... ça, ce n'est pas possible. Si, on sait ici que W infini est stable, parce que c'est la limite, on l'obtient comme limite croissante en temps. Il y a un principe général, quand vous avez une équation parabolique et que vous avez une solution qui est croissante en temps, qui converge vers un état stationnaire, cet état stationnaire est forcément stable. Et ça va être stable au sens où je vais l'expliquer dans un instant. Et donc, ce que ce théorème de Georgi dit, dans ce cas-là, en fait, les seules solutions stables de cette équation sont 0 ou 1. Donc, on ne peut pas avoir de choses comme ça. Alors, voilà le théorème de Georgi exactement. Il dit la chose suivante, si j'ai le théorème de type de Georgi, parce que c'était une conjecture de Georgi, soit V de X qui vaut V de X1 et de Y, solution bornée et stable de cette équation dans tout l'espace. Ici, c'est l'espace Rn-1 en fait, qu'on nous intéressait, et périodique par rapport à une variable, alors V est une fonction qui ne dépend d'une seule variable, V de X1, qui est stable. Et dans notre cas, les seules solutions de l'équation différentielle ordinaire qui est stable, on les connaît, c'est les constantes 0 et 1. Ça peut se démontrer assez facilement, ça. D'accord ? Donc, c'est ça qui permet de classer, ça qui permet de dire, lorsqu'il y a un mur d'obstacles, on a toujours une solution... D'accord ? Une solution qui est... On aura toujours cette dichotomie entre converger vers 0 et converger vers 1. Je vais vous raconter un peu plus de choses. Je voudrais juste finir ça, peut-être. Je ne vais peut-être pas parler de ça. Je voudrais juste très rapidement vous dire qu'il y a des conditions d'obstruction. Donc, les conditions d'obstruction sont comme... sont un peu dans l'esprit de ce qu'on a vu, mais pas ça, quelque chose d'autre. Ici, par exemple, une condition d'obstruction qui nous dit qu'il y aura blocage. Si les perforations sont trop étroites, donc ça, il y a un epsilon, tel que si le diamètre des perforations est inférieur à epsilon, alors il y a blocage. Autrement dit, le V infini va tendre vers zéro dans cette direction-là. Ça ne passera pas, d'accord ? Donc ça, ça se repose sur une technique. Le premier qui avait observé ça, c'était dans le contexte du travail de Matano, Casten, Hollande, dont j'évoquais tout à l'heure. C'était Matano qui s'intéressait au domaine borné, donc c'était un problème un peu différent. Et qui avait observé que si on prenait, vous voyez, je vous ai dit tout à l'heure, si on prend un domaine convexe et qu'on regarde les solutions du problème de Neumann associé à une non-linéarité F, Laplacien de V plus F de V égale 0, si on a une solution stable qui vérifie les conditions de Neumann, alors cette solution est constante. Et Matano, le premier, avait observé que ce n'est pas vrai dans un domaine non convexe. En fait, le modèle exact qu'il avait construit, c'était un domaine comme ça, en forme de sablier, si vous voulez. Il avait dit que si ça, c'est trop étroit, alors la solution n'est pas constante. Il y a une solution non constante stable. Essentiellement, la solution qui est confinée de ce côté-là, qui est proche de 0 ici, et inversement, une solution proche de 1 ici, proche de 0 ici. Et on avait étudié aussi d'autres choses comme ça, par exemple avec Bourse et Chapuisat, ce que j'ai raconté tout à l'heure. C'est exactement lié à ça, sauf que ça se formulait avec en termes de mesure, si vous vous souvenez. C'était ça. Bon, et on avait également observé ça avec Amel et Matano dans un travail antérieur sur un obstacle borné unique. Alors, les conditions suffisantes, et je vous en dis juste un mot, les conditions suffisantes, c'est pour qu'il y ait invasion. Donc, il y a d'abord le fait d'avoir des ouvertures assez larges. Il y a R0, comme celui qu'on avait vu tout à l'heure, dans le cas d'un cylindre, la même chose ici. Si vous arrivez à faire passer une boule de rayon R0 assez large, vous vous souvenez, tout à l'heure, j'avais tout un cylindre, mais c'est la même chose de dire que je fais passer une boule. Je fais passer une boule de rayon assez large ici, entre les trous, alors il y aura invasion. Voilà, c'est ça. Donc, si R0, il y a un R0 qu'on sait caractériser, qui est le même que tout à l'heure. Il y a les ensembles de petites capacités. Donc, en dimension 2, par exemple, c'est des ensembles qui sont... dans un certain sens très proche d'un ensemble discret, par exemple, ou en dimension 3 ou en dimension 2, un mur d'obstacles qui est fait, ce qu'on appellerait un squelette, c'est-à-dire c'est proche de lames qui sont parallèles, disons, on va dire comme ça, de faible épaisseur. Donc, tout ça, on sait caractériser. Et ces trois choses-là donnent lieu à des propagations dans le... d'invasion. Donc voilà les théorèmes qu'on démontre. Je voudrais peut-être simplement vous passer le temps qui me reste à vous parler de la conjecture de De Georgie, vous montrer, vous avez vu, ça joue un rôle essentiel. Donc, comprendre la dynamique ici implique de comprendre ce que peuvent être les solutions stables du problème limite. Et ce problème limite, donc je voudrais, c'est lié à cette conjecture de Georgie, je voudrais vous en dire quelques mots parce que ça fait appel à, c'est vraiment des maths, mais ça fait appel à des maths très, très belles maths, donc je voudrais vous en dire un mot. Donc voici les, donc voilà les résultats que j'ai, les résultats que j'ai utilisés. Je vais vous sauter les démonstrations. Le résultat que j'ai utilisé, c'est exactement celui-là. Le résultat asymptotique, il dit la chose suivante. Il dit, c'est un résultat de type de Georgie qui dit, si U est une solution stable de l'équation moins Laplace 1 de U égale F de U dans Rn, je vais préciser ce que ça veut dire stable maintenant. Si U est une solution stable de l'équation moins Laplace 1 de U égale F de U dans Rn, qui est positive ou nulle, bornée et qui est périodique par rapport à la variable Y dans Rn moins 1, alors U ne dépend que d'une seule variable X1 et elle est monotone par rapport à cette variable. Ce qui permet de caractériser dans le cas bistable, ça c'est un résultat indépendant de F, c'est vrai pour tout F. Il suffit d'avoir une solution stable, stable, c'est une propriété forte, qui est périodique par rapport à n-1 variable, alors forcément votre fonction ne dépend que de l'autre variable et elle est monotone dans cette autre direction. Donc dans le cas de non-linéarité bistable, une solution monotone stable, il n'y en a qu'une seule, il n'y en a que deux, et c'est des constantes 0 et 1. Donc ça, on peut le montrer. Donc c'est ça qui est derrière, ce théorème. Alors je ne vais pas vous faire la démonstration. Elle consiste essentiellement, à réécrire, à diviser la fonction qu'on cherche. On prend les dérivés, on dérive l'équation dans une direction xi. On a donc cette équation, Laplace 1 psi plus f prime de u psi égale 0. C'est l'équation que j'ai dérivée dans la direction xi. Et ce que j'observe, c'est qu'il y a toujours, ça découle de d'autres travaux, il y a toujours une fonction propre, on pourrait dire, une fonction propre généralisée dans Rn, qui est une solution de moins Laplace 1 phi moins f prime de u phi égale lambda phi, avec phi positif dans Rn et phi périodique par rapport à y. Il y a toujours une fonction propre. Et dire que la solution est stable, en gros, ça veut dire que lambda est positif ou nul ici. D'accord ? En gros. Et donc, essentiellement, on réécrit l'équation en divisant psi par cette fonction phi qui est positive partout. On ne sait pas ce qu'elle fait à l'infini. Donc ça, ce n'est pas forcément borné. Mais sigma phi est borné, parce que psi l'est. Et quand je réécris ça, je peux l'écrire sous la forme de... Il y a une astuce ici qui consiste à calculer l'équation vérifiée par la dérivée. Donc on remplace psi par sigma phi ici, donc phi, psi vérifie cette équation linéaire, on remplace psi par sigma phi, et on divise par phi, et donc ce qu'on obtient, c'est 1 sur phi, divergence de phi 2, gradient de sigma, mon lambda phi sigma égale 0. Et ensuite, il s'agit d'analyser les solutions de cette équation, et on peut je ne vais pas vous faire toute la démonstration, mais en gros, on arrive à la conclusion que les dérivées partielles sont des constantes fois phi dans toutes directions. Donc, pour chaque psi, j'arrive à démontrer qu'en faisant R vers l'infini, sigma est constante, ça veut dire que la dérivée par rapport à U dans la direction xi est une certaine constante de xi fois phi. Mais il faut se rappeler que U est périodique par rapport à Y, et donc une fonction périodique ne peut pas avoir une dérivée constante dans une direction, sauf dans les directions de périodicité, sauf à ce que cette constante soit nulle. D'accord ? Une fonction périodique ne peut pas être monotone dans une direction, sauf si elle est monotone, c'est qu'elle est constante dans cette direction, fonction périodique. Donc ça veut dire que du sur dxi est égal à 0 pour tout j de 2 à n, et donc une dépend de x1. C'est comme ça qu'on le démontre. Bon, je vous passe les détails. Mais en particulier, je vous redis ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc si f est bistable et u est une solution stable de l'équation Laplace 1 de u plus f de u égale 0 dans Rn, avec 0 compris entre u et 1, et u est périodique en y, alors ou bien u vaut 0, ou bien u vaut 1. Et la démonstration, c'est de regarder u de x1, de savoir que u' de x1 est positif. Alors à ce moment-là, c'est facile de voir qu'u de moins l'infini, il y a des limites, en moins l'infini plus l'infini, elles appartiennent à 0, 1 et 1. Et en fait, les seules solutions stables, si on le voit comme ça assez facilement, sont 0 ou 1. Donc, c'est un exercice que je vous laisse. Démontrer que les seules solutions stables de ça sont 0 ou 1 pour l'équation différentielle ordinaire, puisqu'on sait maintenant que U dépend de X1. Alors, quelle est la conjecture de De Georgie ? Donc, c'est ça que je voudrais vous faire le lien avec tout un pan de mathématiques qui se pose ici, mais qui est très naturel dans le contexte des équations de réaction-diffusion. Vous avez vu qu'on est très naturellement amené à comprendre la structure de ces équations limites. Quelle est la conjecture de Georgi? La conjecture de De Georgi dit, au départ, elle dit, je regarde une équation comme Laplacien de U plus f de U égale 0. Vous pouvez appeler ça une équation de champ scalaire non linéaire. Donc, f est assez général, donc prenez vos équations de champ les plus habituelles, et vous avez une équation de ce type-là. En fait, ce qui intéressait De Georgi, c'était une équation de type Ginzburg-Landau, où c'était moins Laplacien de U égale U fois 1 moins U carré, donc au lieu de 0,1, c'était moins 1, 0, 1. Enfin bon, peu importe. Donc ici, une équation de Ginzburg-Landau, ça serait quelque chose de ce type-là, U fois 1 moins U carré. Alors, ce que De Georgi disait en... je ne sais plus quelles années c'était, c'était les années 80, je crois. De Georgi avait dit, donc, vous prenez une solution monotone dans une direction. Donc, il s'intéressait à ça, donc ces modèles apparaissent dans l'équation d'Allen-Kahn, ça c'est l'équation d'Allen-Kahn essentiellement. Et les équations d'Allen-Kahn sont utilisées pour modéliser des changements de phase. Donc il disait, à partir de certaines considérations, que si vous avez une solution qui est monotone dans une direction, donc il y a un changement de phase qui est un graphe, si vous voulez, voyez, on passe de moins 1 à 1, ici dans le cas de De Georgi, si on suppose que dU sur dxn est positif dans RM, monotonie, et U tend vers plus 1 et moins 1 d'un côté ou de l'autre, vous voyez, vous avez un changement de phase, moins 1 et 1, l'équation d'Allen-Kahn, et vous avez monotonie donc dans cette direction-là. Alors, ce que De Georgi a dit, il a dit, est-ce que U est une fonction d'une seule variable? C'est ça la conjecture de De Georgi, il y a milliers de papiers de maths écrits dessus, enfin plusieurs centaines en tout cas, écrits dessus. Est-ce que U dépend d'une seule variable? Et ça permet de dire des choses sur la régularité de l'interface. Une fois qu'on fait un changement d'échelle, on se ramène où il y a une transition, verticale. Donc l'interface, on peut l'obtenir comme limite. Et le fait de savoir qu'elle est monotone, qu'elle est d'une seule variable, ça simplifie considérablement l'analyse. D'accord. Changement de phase se produit à ce moment-là sur un plan. Et ce que De Georgi a dit, en réalité, ce n'est pas tout à fait ça. Il a dit, est-ce que c'est une fonction d'une seule variable, au moins jusqu'à la dimension m égale 8? Donc De Georgi était un grand génie. C'est vraiment quelqu'un d'extraordinaire. Il dit, est-ce que cette solution est une solution d'une seule variable, au moins jusqu'à la dimension m égale 8? Alors, qu'est-ce qu'on connaît sur cette conjecture de De Georgi? Ça a d'abord été montré pour les solutions monotones. Donc, les solutions monotones sont forcément unidimensionnelles, par Gusub et Gouey. Puis ensuite, ce résultat a été généralisé par Luigi Ambrosio de Pise et Xavier Cabré de Barcelone, m égale 3. Et puis, le problème, d'une certaine façon, a été résolu jusqu'à la dimension 8 par Ovidio Savine de Columbia pour les dimensions qui vont entre 4 et 8. Sauf que, contrairement à ces deux travaux, Savine ajoute en plus l'hypothèse que U tend vers 1 et moins 1, enfin, U tend vers 0 et 1, si vous voulez, dans le cadre que je me suis fixé, U tend vers 0 et 1 d'un côté et de l'autre. En fait, on ne sait pas, dans ces dimensions-là, si on a besoin de cette hypothèse ou pas. Mais ce qu'on sait, c'est qu'en dimension m égale 9, Delpino, Kowalczyk et Wei, Jun Cheng Wei, ont construit un contre-exemple en dimension m égale 9. Donc je vous laisse réfléchir à la profondeur de De Georgi qui dit, est-ce que c'est vrai au moins jusqu'à la dimension 8? C'est quand même assez extraordinaire. Ça c'est ça. Quel rôle la dimension 8? En fait, c'est très intimement lié aux surfaces minimales. Ce problème-là est très intimement lié au savoir si les surfaces minimales, avec certaines propriétés de stabilité, par exemple, sont des plans ou pas. Et vous avez des contre-exemples à partir de la dimension 8. Il se trouve que la dimension 8, pour ça, c'est égal à la dimension 9 pour ce problème que j'ai énoncé ici. Et donc, c'est vraiment lié. La construction de Delpino, Kowalczyk et Wei repose sur la construction de Bombieri, Giusti, Giaquinta, pour lequel Bombieri a reçu la médaille Fields, d'ailleurs, d'un cône qui n'est plus un plan, mais qui est une surface minimale à partir de dimension 9. Et donc, on peut aussi s'intéresser, dans ce sujet monotone, on peut aussi s'intéresser au minimiseur de l'énergie. Il ne s'agit pas de minimiser globalement l'énergie, mais de dire que sur tout ensemble compact, on minimise l'énergie. En se donnant les données, on prend n'importe quel ensemble compact, on se donne les valeurs de la fonction au bord, puis on fait varier à l'intérieur. Si c'est un minimum, on appelle ça un minimum pour chaque ensemble compact que vous choisissez. vous dites que c'est un minimum. Et Savine, au vidéo Satmin, a démontré que jusqu'à 7, c'était, on ne sait pas, je crois, pour 8. Jusqu'à 7, c'était. Donc c'est un problème très très riche. Alors au lieu de raisonner en avec monotonie dans une direction, qui est finalement pas très. En monotonie, une solution, éventuellement en imposant des limites, ou bien en raisonnant sur les minimiseurs, vous avez une chose plus générale que les minimiseurs, qui est la notion de stabilité. Donc il y a une version de cette conjecture, qui est la conjecture de Georgi pour les solutions stables. Alors qu'est-ce que j'entends par solution stable? Je vous ai dit, je le dirai. C'est vous prenez une équation comme ça, Laplace 1 de U plus F2 égale 0 dans RM, et je dis que c'est stable si, quand je prends l'opérateur de Schrödinger associé à cette solution, c'est-à-dire je linéarise, je prends moins Laplacien, phi, moins f' de u fois phi, et je regarde cet opérateur-là, je le regarde dans n'importe quel ensemble ouvert borné, régulier, si vous voulez, ensemble ouvert borné régulier, je regarde la première valeur propre, ou l'état d'énergie critique, si vous voulez, de cet opérateur, associé à la condition de Dirichlet sur oméga, donc ce qu'on appellerait la valeur propre principale. Eh bien, je dis que c'est stable si pour tout ouvert borné régulier, la première valeur propre du problème de Dirichlet de l'opérateur moins laplacien moins prime, l'opérateur linéarisé, associé à la condition de Dirichlet sur le bord d'oméga, cette valeur propre est positive. Et ça, c'est vrai pour tout D. C'est ça que j'appelle une solution faible. Donc, vous voyez, cette condition-là, elle équivaut à une sorte de dire qu'on a un minimum local dans RM, puisque ça équivaut aussi à dire que si je prends la forme quadratique associée à cet opérateur-là, elle est strictement positive pour tout phi dans C0, C0 infini de RM, disons. Donc c'est ça qu'on appelle une solution stable. Et la question est-ce que des solutions stables, oui, on peut reformuler la question de Georgi, c'est pas comme ça qu'il l'avait formulé, mais est-ce que les solutions stables sont indimensionnelles ou pas? Alors voilà ce qui est connu sur ce problème. C'est connu que ce n'est pas vrai en dimension 8, parce que c'est très directement lié aux surfaces minimales. En dimension 8, il y a un contre-exemple de Frank Packard et Jun Cheng Wei, qui, toujours en s'inspirant des surfaces minimales, construisent un contre-exemple en dimension 8. Et en dimension 2, on connaît le résultat, grâce à un travail qu'on a fait avec Louis Caffarelli et Louis Nirenberg, dont je salue la mémoire, il nous a quittés hier, je crois, hier ou avant-hier, Louis Nirenberg, un géant, un immense mathématicien. Dans ce travail avec Louis Caffarelli et Louis Nirenberg, on démontre cette conjecture en dimension 2. Et cette même conjecture, elle est à ce jour ouverte pour toutes les dimensions intermédiaires entre 3 et 7. Donc vous voyez un peu je voulais vous montrer un peu ça pour vous faire toucher du doigt le fait que quand on s'intéresse à ces problèmes d'invasion, on est amené à l'étude de solutions de problèmes d'équations de partielles semi-linéaires comme dans l'espace, à les caractériser, et c'est lié à des problèmes aussi, et ce truc-là est lié à des problèmes de géométrie de façon assez profonde. Donc, voilà. Et bon, je ne vais pas vous faire la... mon temps s'est écoulé, je ne vais pas vous faire la démonstration de ça, c'est lié à ce résultat. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention.